France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La communauté est discrète, mais le choc fut marquant, voire profond, à l'orée du mois de mars dernier. Les États-Unis ont suspendu un temps le partage de renseignements avec l'Ukraine, rappelant ainsi leur importance, prévenant du poids potentiel de leur retrait, inquiétant surtout la communauté européenne du renseignement. Alors l'Europe peut-elle se passer des services américains en la matière? À l'instar de la défense, sommes-nous prêts à devenir indépendants dans ce domaine? Pour en discuter, trois invités ce soir. Philippe Hayet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes haut fonctionnaire, ancien directeur à la DGSE, professeur sur les renseignements à Sciences Po. Vous avez publié une nouvelle leçon sur le renseignement. C'est aux éditions Odile Jacob. Face à vous, Serge Chollet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien général à la retraite, ancien haut responsable, c'est tout indiqué, au sein du ministère des Armées. Vous avez co-créé la chaire académique dédiée au renseignement à Sciences Po Aix-en-Provence. Vous êtes directeur de cette chaire. À côté de vous, Maud Kessar, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directrice du domaine Europe Espace Atlantique Russie à l'IRSEM. Vous êtes par ailleurs maître de conférence des universités spécialistes de la politique étrangère américaine. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
On va s'intéresser à la nouvelle patronne du renseignement. Retenez bien son nom, son visage aussi, elle s'appelle Tulsi Gabbard, un poste stratégique.
Plus être renseigné par les Américains, un handicap majeur pour l'armée ukrainienne. Jusqu'ici, ces informations permettaient de compenser le déséquilibre des forces militaires. Aujourd'hui, tout a changé.
Nous pouvons compter sur nos propres ressources, nous les avons. Bien sûr, elles sont plus modestes, mais elles sont là. Et il y a aussi les ressources dont disposent les partenaires autres que les États-Unis.
L'aide militaire et l'aide au renseignement ont été rétablies. Et cela a été confirmé par l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky, qui était présent ici à Jeddah hier pour les négociations.
Le ministre de la Défense devrait être renvoyé et aurait dû l'être avant Monsieur Walz.
Et je le disais, hein, Philippe Hayet, en introduction, début mars 2025, les États-Unis ont cessé de partager un temps leur renseignement vis-à-vis de l'Ukraine. Qu'est-ce que cela a provoqué dans la communauté du renseignement en Europe? Alerte, choc, confirmation dans le fond d'un besoin impérieux de souveraineté en la matière?
Je pense que ce risque de rupture de comportement du président américain avait été anticipé par les services européens. Alors ça a été particulièrement difficile à vivre pour le président ukrainien, bien sûr, puisqu'il est le premier bénéficiaire du soutien américain. Mais le président Trump n'est pas un inconnu son comportement vis-à-vis à la fois de l'Europe en général et même dans le cadre de l'Alliance Atlantique et de la coopération avec les services était anticipé. Donc je pense que depuis plusieurs mois, les services anticipaient la possibilité d'une rupture sur un sujet comme l'Ukraine, mais ça peut concerner d'autres sujets, des intérêts plus directs. Voilà. Donc ça n'est pas une surprise. Ce qui est intéressant, c'est que ça a fait l'objet d'une annonce publique, parce qu'il arrive que des coopérations de ce genre soient interrompues sans que nécessairement on commente la chose. Donc on en a fait un élément de diplomatie publique que de montrer, et un levier évidemment pour le président Trump, pour peser sur le comportement de négociation, de brandir la coopération de renseignement, ce qui veut dire aussi que c'est un actif, la coopération de renseignement, dans une relation globale.
Vous êtes sur cette ligne, Maud Kessar. On pouvait le présager, dit Philippe Hayet, mais au-delà de la communauté du renseignement, les analystes, les responsables politiques, eux, s'attendaient à une telle décision américaine?
Alors, surtout, ce qui est intéressant et ce qui est particulièrement surprenant, c'est ce que rappelait votre sujet que vous avez diffusé juste avant, c'est la nomination de Tulsi Gabbard à la tête donc du renseignement américain. Il faut rappeler que c'est elle la grande chef du renseignement à la tête de plus de 18 agences.
Rappelez qu'elle est même une transfuge démocrate qui a rejoint les camps, la base de Donald Trump.
Elle a un parcours particulièrement opportuniste, mais dans l'équipe Trump, finalement, ce qui compte, c'est d'être loyal, pas forcément d'être compétent. Et dans le cas de Tulsi Gabbard, c'est la question qui s'est posée, et au-delà du fait qu'elle puisse utiliser le renseignement comme un levier stratégique, un levier de pression aussi dans le conflit et dans la négociation avec la Russie, c'est plutôt ses positions à elle qui posent question, celle finalement d'un renseignement américain qui est politisé et plutôt finalement sur la ligne donc d'un Poutine que de celle des alliés, et ça c'est beaucoup plus inquiétant pour les alliés européens, et ça ne concerne pas que Tulsi Gabbard mais l'ensemble des autres aux responsables à la tête donc de l'appareil d'État américain. On en a encore eu des exemples ce mois-ci et on pourra y revenir très en détail, mais ça c'est particulièrement inquiétant.
On y reviendra très en détail justement sur cette politisation des services de renseignement américains. Je reviens un instant avec vous, Serge Chollet, sur cette décision américaine début mars dernier. Est-ce qu'elle vous a surprise?
Alors, je n'ai plus l'âge pour être surpris, peut-être étonné, mais je ne suis même pas étonné puisque au cours des dernières décennies, les Américains ont été amenés à couper le renseignement. Souvenez-vous de la crise en 2003 lors de Iraqi Freedom, lorsque la France a refusé de rejoindre les Américains et les Britanniques dans l'invasion de l'Irak. Nous avons connu un sacré trou d'air en termes d'échange de renseignements. J'ai souvenir aussi que les Allemands ont lancé leur programme de satellites Sarlupe, ce sont des satellites d'observation radar, suite justement à aussi un problème qui était lié aux Balkans, où les Américains avaient décidé de ne pas fournir du renseignement aux Allemands, et les Allemands ont trouvé que ça les obligeait à une certaine autonomie. Donc ces aléas ne doivent pas surprendre en tout cas les services. Je ne sais pas, comme Philippe, s'ils avaient été anticipés, mais ça ne doit surprendre personne. Ensuite, je voudrais quand même relativiser certaines choses. Le renseignement, on le décrit souvent de niveau stratégique, ou de niveau opératif ou de niveau tactique. Si effectivement il peut y avoir une rupture d'un renseignement de niveau stratégique, et on entend là, par là, les éventuelles frappes dans la profondeur pour les Ukrainiens, le renseignement tactique, j'allais dire, les Ukrainiens, avec notamment la multitude de drones qu'ils utilisent maintenant, ont été en mesure d'une... En tout cas, ils ont atteint une certaine transparence du champ de bataille. Donc il y a sans doute des effets, mais qui ne sont pas immédiats lorsqu'on parle de renseignements de niveau stratégique. Il n'y a certainement pas de rupture au niveau du renseignement dit tactique.
Vous êtes d'accord, Philippe Payet, il faut, dans le fond, relativiser même ce manque de soutien ces dernières semaines des États-Unis en matière de renseignement. Ça n'a pas un impact majeur côté ukrainien sur ce conflit, côté européen ?
Pour les Ukrainiens, ça n'est pas une bonne affaire, évidemment, même si c'est une décision qui a été rapportée, apparemment. Donc c'était une sorte de menace qui a été brandie pour peser, encore une fois, sur le comportement du président Zelensky. Pour les Européens, encore une fois, c'est dans le paysage. Cette dépendance, car il y a une dépendance, on y reviendra sans doute, de certains États européens vis-à-vis du renseignement américain, et notamment du renseignement technique américain. On parle du satellite, mais on parle aussi des interceptions américaines, est naturellement préoccupante pour des États qui ont l'ambition de mener une politique autonome. Ce qui est préoccupant, c'est pas tant la gesticulation américaine que le révélateur que ça constitue d'une absence de vision stratégique commune. La vérité, et ça, on n'a pas fini d'en tirer les conséquences, c'est que nous n'avons plus la même vision du monde. Pourquoi ? Parce qu'en matière de renseignement, ce qui a fondé la coopération de renseignement depuis un quart de siècle, c'est la lutte contre l'union sacrée, contre le terrorisme djihadiste transnational. Tous les services étaient alignés avec leurs capacités, et d'ailleurs, y compris des pays non démocratiques, pour lutter contre eux. Et il y a eu des progrès considérables qui ont été faits avec des coopérations extrêmement denses en termes d'opérations. Ceci a disparu, le terrorisme demeure, mais ça n'est qu'une menace parmi d'autres. Nous n'avons plus, que ce soit sur la Russie ou sur nous n'avons plus la même vision stratégique. Nous n'avons plus les mêmes intérêts stratégiques. Bon. Et donc, si vous voulez, le renseignement, il peut fonctionner, il a une dimension technique, on y reviendra si vous le souhaitez, c'est une forme de coopération technique parmi d'autres, mais c'est aussi une coopération politique. Et cette dimension politique, en l'espèce, elle a manqué, peut-être qu'on peut raccommoder les choses. Je ne dis pas que c'est sur tous les théâtres, d'ailleurs, que ça se passe ainsi. Nous avons quand même des intérêts communs, quelques intérêts communs avec les Américains. Mais ce liant commun qui nous conduisait à avoir une coopération très structurée et très progressive, elle a vraiment progressé en 25 ans. Cette coopération internationale de renseignement n'existe plus.
Maud Kessar, la décision de Donald Trump, il faut la comprendre, comme le dit Philippe Payet, comme toutes les décisions en matière de défense, en matière de stratégie, c'est une illustration supplémentaire d'une divergence stratégique entre l'Europe et les États-Unis.
C'est une divergence de valeurs, comme le rappelait...
De valeurs.
Oui, de valeurs et de priorités aussi. Si on regarde le seul document stratégique, finalement, qui est un petit peu intéressant et qui a sorti, comme tous les ans, en fait, l'administration américaine et l'administration Trump, c'est le Annual Threat Assessment de 2025. Un document extrêmement léger par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir, mais qui a...
Et accessible à tous, vous l'avez dit.
Et accessible à tous, absolument. Vous pouvez aller vérifier en ligne. Et vous verrez que ce qui est intéressant, c'est que la priorité est donnée à la lutte contre les cartels. Ça, c'est pas du tout en désaccord ou incohérent avec la ligne de Trump.
La lutte contre la drogue.
Absolument. Vous savez, le fentanyl, c'est ce qui occupe beaucoup les Américains et c'était dans le programme de Trump. Autre point qui est intéressant et important aussi, c'est que la lutte contre le terrorisme reste quand même une priorité, une possibilité de coopération en matière de renseignement. En revanche, ce qui change, c'est la définition et le positionnement par rapport aux autres compétiteurs stratégiques ou aux ennemis. Vis-à-vis de la Chine, on reste sur une ligne qui est quand même, on va dire, assez habituelle des documents stratégiques américains. Mais en revanche, sur la Russie, effectivement, il y a un tournant. Donc, il y a bien un changement politique et un changement de valeur. Et ça, ça peut surprendre. Et ce n'est pas que la décision de Trump. C'est celle de tous les idéologues qui sont à la tête des agences de renseignement comme lui. Et ceux-là même qui pourraient ambitionner, comme on dit aujourd'hui, pareil que c'est passé dans le dictionnaire, de vouloir être conseiller national de sécurité à la place de Marco Rubio. Et parmi ces candidats, on a Stephen Miller, dont l'objectif numéro un, qui est idéologique, est aussi de mettre l'immigration comme priorité stratégique pour les États-Unis. Donc on voit bien que les priorités ne sont pas complètement les mêmes. Sur le terrorisme international, sans doute pourrait-on encore s'y retrouver entre alliés. En revanche, pour le reste, il semblerait qu'effectivement nos priorités soient divergentes. Et puis il y a un point qu'on n'a pas rappelé, qui est quand même un petit peu important sur cette nouvelle administration, et après on fera les différences sans doute, c'est il y a deux moments qui sont un petit peu quand même interpellants, on va dire, la suspension du renseignement, mais on peut relativiser ici. Et le deuxième moment, c'est le signal gate sur l'amateurisme.
On allait y revenir, bien sûr. Il faut rappeler d'un mot de quoi il s'agit. Allez-y, je vous en prie.
Le signal gate, eh bien, c'est finalement peut-être une boucle d'amateurs, non pas sur WhatsApp, mais sur Signal.
Une autre application de discussion.
Qui est censée être assez sécurisée, mais pour le monde civil, et absolument pas dans les procédures que l'on peut utiliser.
Pardon ? Et qui est d'origine russe.
On va s'intéresser à ce signal gate, mais avant ça, Serge Chollet, lorsqu'on entend ce que vient de dire Maud Kessar, la priorité des États-Unis désormais, plus que la lutte contre le terrorisme international, c'est désormais la lutte contre les cartels, la lutte contre le trafic de drogue. Qu'est-ce que ça a du point de vue de l'impact justement des services de renseignement? Ça veut dire qu'ils vont se recentrer beaucoup plus sur l'État, beaucoup plus sur la politique intérieure?
Alors, probablement, maintenant, les Américains ont quand même des capacités et de recherche du renseignement et d'exploitation du renseignement qui sont absolument impressionnantes. Donc, je devine qu'ils continueront quand même à pouvoir suivre en parallèle la menace, qu'elle soit terroriste, qu'elle soit chinoise ou peut-être dans d'autres secteurs, je pense du côté du Moyen-Orient et du Proche-Orient, puisqu'on voit quand même qu'une des priorités de l'administration Trump, c'est quand même l'enjeu du côté d'Israël et de ses pourtours. Les Américains seront, même s'ils ont des capacités immenses, seront quand même à un moment donné limités, non pas par le recueil du renseignement, par son exploitation. Et si vous avez un nombre donné d'exploitants du renseignement qui était jusqu'à présent dédié à l'Europe et puis la menace russe, ils peuvent très bien demain, et on l'a vu, licencier un certain nombre de ces experts et puis se concentrer sur d'autres sujets. Même les services de renseignement les plus puissants, comme les États-Unis, ont à un moment donné des limites dans leurs capacités. Et c'est surtout dans les capacités de traitement. Alors après, on peut y ajouter de l'intelligence artificielle, faire que ce soit beaucoup plus facile pour l'exploitation du renseignement. Mais néanmoins, vous aurez une priorité, des priorités. En France, on a des priorités en renseignement. Aux États-Unis, il y a des priorités. Et à un moment donné, vous mettez l'accent sur ces priorités et vous délaissez d'autres domaines. Je ne crois pas qu'ils iront jusqu'à délaisser complètement le sujet russe et européen. Mais néanmoins, ils risquent d'y consacrer beaucoup moins de ressources. Et donc, une perte d'intelligence.
Maud Kessar.
Alors, je ne voudrais pas glisser sur trop de comparaisons entre Trump 1 et Trump 2, mais je m'y risque en disant qu'effectivement, l'ambition de cette administration Trump 2, c'est de faire moins d'analyses et plus d'opérations. Et donc, ça passe aussi par le fait de réduire aussi les personnels de renseignement, puisque je parlais de la politisation de l'appareil d'État, de mettre finalement des personnalités et des chefs qui vont dans le sens d'une idéologie qui est celle qu'on connaît, celle de la révolution nationaliste et réactionnaire. Et puis aussi de curieusement, en fait, peut-être un peu torpiller un appareil qu'on était en train de décrire comme étant très performant et dont sont très dépendants les autres alliés des Five Eyes, au premier rang desquels les Britanniques. Et si on a donc d'un côté cette dépendance et de l'autre cette purge que opère l'administration Trump dans l'ensemble des agences de renseignement, alors cette purge, elle passe passe par le fait de cibler des femmes ou des personnalités qui seraient plutôt qui ne correspondraient pas au cahier des charges anti-woke de l'administration Trump et du Doge, eh bien tout ça prive en fait l'administration même d'un certain nombre d'atouts, d'analystes et de beaucoup d'agents de renseignement. Vous avez sans doute vu ce week-end dans le Washington Post qu'il était annoncé, et c'était une information assez exclusive, que l'administration Trump irait jusqu'à licencier plus de 1200 agents de la CIA, pas d'un coup, de manière progressive, mais où vont partir l'ensemble de ces agents et par quel autre acteur privé ou puissance étrangère risque-t-il d'être récupéré ? C'est une question que l'on doit se poser.
Et on rappelle que le groupe Five Eyes que vous avez mentionné, c'est un groupe qui, en gros, organise les collaborations en matière de renseignement entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Philippe Ayekele, concrètement, là aussi, du point de vue technique, commençons par ça avant de commencer par le renseignement humain, la dépendance et le degré de dépendance des Européens vis-à-vis du renseignement américain.
Alors, il est réel, mais variable. Ça dépend,
selon les pays.
Ça dépend des pays, effectivement. On peut placer dans cette échelle le Royaume-Uni, qui vient d'être cité, comme celui qui est le plus dépendant, car en réalité, le renseignement technique américano-britannique est intégré. C'est-à-dire que les liens entre les deux agences techniques, la National Security Agency américaine, la NSA, bien connue depuis M. Snowden, et le GCHQ, c'est un peu plus compliqué, qui est l'équivalent britannique, les gens de la Seconde Guerre mondiale, de Bletchley Park, sont très intégrés, à la fois en termes de système, dont les clés sont souvent américaines, de présence, il y a des milliers de personnes qui travaillent, ce sont les plus grosses agences, l'agence de renseignement technique, des milliers de personnes qui travaillent de chaque côté de l'Atlantique, et donc la moindre volonté de si j'ose dire de couper le robinet ou de réduire le robinet a un effet immédiat sur les Britanniques.
La dépendance de l'Allemagne également est.
Alors l'Allemagne est également un service très dépendant. D'autres, on peut citer les Scandinaves aussi, par exemple. C'est pas tout à fait lié au budget. C'est plutôt une question de philosophie atlantiste et politique. Pour ce qui est de l'Allemagne, on était effectivement dans cette approche atlantiste avec une forte déconvenue puisque un épisode qui a été quand même très douloureux et qui est quand même dans les mémoires allemandes aujourd'hui, y compris dans le nouveau chancelier, celui qui sera installé demain, c'est que la chancelière Merkel, il y a une dizaine d'années, en 2013, à la suite des révélations de Snowden, a découvert deux choses. D'abord, l'ampleur de la coopération qui existait entre les États-Unis et l'agence allemande, le BND, l'agence fédérale allemande, coopération technique, c'est-à-dire qu'en fait, les Américains étaient vraiment très implantés sans l'autorisation politique de la chancellerie dans des installations de recherche technique allemande. Et deuxièmement, parce que la coopération d'enseignement, c'est par définition quelque chose d'ambigu.
Et le revers de la médaille,
La chancelière s'est rendue compte que son handy, comme on dit en Allemagne, était écouté par la NSA. Son téléphone portable était écouté par la NSA. Et donc ça crée des traces qui sont encore présentes dans la classe politique allemande et qui fait que les Allemands se sont rendus compte il y a une dizaine d'années qu'ils sont allés trop loin. Pour autant, ils n'ont pas encore, c'est tout récent, fait l'effort d'investissement pour se désimbriquer des États-Unis. Donc il y a une grande chance. La France, pour terminer, et on pourrait citer d'autres pays, la France s'est bien rendue compte parce qu'elle avait une volonté d'autonomie qui a commencé par le fait nucléaire, une ambition de financement qui date, enfin le financement du renseignement français, il date pas non plus de 50 ans. C'était finalement après la première guerre du Golfe en 90 qu'on s'est rendu compte de la dépendance. Serge s'en souvient en tout cas, quand les Américains ont refusé de partager leurs images pour vérifier la situation, l'agression de Saddam sur le Koweït, c'était ça que s'est déclenché un effort qui a commencé, je laisse mon camarade ici présent le commenter de manière beaucoup plus professionnelle, en matière satellitaire. Le satellite Helios par exemple est né de la première guerre du Golfe. Voilà. Donc on a fait un effort que je ne peux pas complètement détailler, mais qui vise à avoir plus d'autonomie que d'autres puissance européenne.
Le satellite, Serge Chollet, c'est un peu votre spécialité. Alors justement, en matière satellitaire, si on prend cet exemple précis, à quel point la France est autonome vis-à-vis des États-Unis, on sait à quel point les satellites sont clés, notamment dans le conflit en Ukraine, avec la dépendance liée à Starlink.
Alors, Starlink ne fait pas de recherche de renseignements. On en parlera peut-être après. Starlink, ce sont les liens entre les différents capteurs. Les Américains sont ceux qui, dans l'espace, ont le plus grand nombre de ressources. Alors les Chinois, les Russes sont pas mal équipés. Et la France a fait un énorme effort. En fait, en Europe, il y a trois pays qui ont fait un effort en termes de capteurs de renseignements depuis l'espace, c'est la France, l'Allemagne, pour les raisons que j'avais évoquées précédemment, et l'Italie. Alors, l'Allemagne et l'Italie avaient fait le choix des capteurs radar. Pourquoi ? Parce que radar, c'est tout temps, c'est jour, nuit, et même quand il fait des nuages. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une logique pour les Allemands plutôt centrale Europe, et les Italiens plutôt une logique méditerranée. La France a fait le choix de l'optique. Donc, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il n'y ait pas de nuages, et ça ne marche que de jour. Alors maintenant, de plus en plus, un peu la nuit, parce qu'il y a de l'infrarouge. Et il y a des accords entre la France, l'Allemagne, l'Italie. On peut citer l'accord de Schwerin avec les Allemands pour des échanges de leurs images radar, et la France, en échange, donne des images optiques. Et puis, l'accord de Turin entre la France et l'Italie pour qu'il y ait des échanges de cette nature. Mais néanmoins, les Américains ont des ambitions, j'allais dire, qui dépasse parfois l'entendement. À l'époque où j'étais en activité à la direction du renseignement militaire, j'avais été chargé de la mise en place d'une relation entre la direction du renseignement militaire et puis la NGA, la National Geospatial Agency américaine. À l'époque, Robert Cardillo, le patron américain, il avait comme ambition d'avoir une image satellite de tous les points du monde toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faisait ? Il passait des accords avec tout le monde, pas seulement avec la France, avec les Allemands et les autres, et puis on y reviendra peut-être, et avec des acteurs privés. Et c'est là que, et nous avons eu l'occasion avec Philippe d'écrire un article pour le journal Le Monde, il y a un aspect qui est absolument fondamental et les Américains sont en train d'ouvrir la voie là-dessus, c'est le partenariat public-privé. Vous avez maintenant énormément d'acteurs dans l'espace, des acteurs privés. Aux États-Unis, on peut citer Maxar, on peut citer Planète. Vous avez en Ukraine un acteur nouveau qui s'appelle IceEye, un petit acteur finlandais qui intervient. Il y a tellement d'objets maintenant dans l'espace que vous pouvez effectivement, si vous achetez ces images, avoir une couverture presque constante de tous les points du globe. Sauf que derrière, il y a un énorme enjeu, c'est celui de capacité de stockage. Et ça, seuls les Américains ont des capacités. Alors la DGSE a fait un énorme effort en termes de capacité de calcul et de stockage, mais il n'est pas tout d'avoir des capteurs qui viennent chercher des images. Ensuite, faut-il les stocker et pouvoir les exploiter derrière.
Philippe Ayer, du point de vue humain, cette fois et non technique, du point de vue humain là, quelle est notre dépendance ? Parlons de la France, la dépendance française vis-à-vis des États-Unis. Elle est relativement plus importante ou plus faible ?
Elle est moindre, probablement. Difficile d'avoir une échelle commune, mais parce qu'elle ne nécessite pas les mêmes investissements financiers et techniques. Elle nécessite un savoir-faire, un entraînement opérationnel, une résolution politique, un système de décision qui fait que, si on est sur la recherche humaine, les opérations de recherche humaine, celles qui ont lieu principalement à l'extérieur du territoire national, donc en eau profonde, si je puis dire, en haute mer, tous les États européens n'ont pas cette culture des opérations extérieures de renseignement. La France a une tradition, les Britanniques ont une tradition, donc on se compare souvent, et nous avons des relations étroites sur ce plan avec les Britanniques, mais on citait l'Allemagne n'a pas une grande tradition de renseignement, de recherche humaine à l'extérieur, pour des raisons à la fois politiques, historiques et techniques. Donc la dépendance n'est pas la même, mais vous avez raison de souligner ce point, le domaine le plus intime peut-être de la coopération en matière de renseignement, c'est bien la recherche humaine. C'est la prise de risque commun, y compris physique, avec des personnes sur le terrain, c'est un peu comme l'alpinisme en haute montagne, on s'encorde, qui nécessite une très très grande confiance. Peut-être plus que les investissements techniques de coopération.
Maud Kessar, vous souleviez un point tout à l'heure, la politisation du renseignement américain à travers des nominations utilement forgées à travers la loyauté seulement. Quel impact ça a justement en matière de renseignement extérieur ? Je veux dire par là, quels sont les impacts concrets de cette politisation du renseignement et la très haute administration américaine dans ce domaine ?
Ça peut sans doute revenir sur ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire éroder la confiance aussi entre les différents partenaires, car si on nomme un trop grand nombre d'amateurs aux plus hautes responsabilités, je ne parle pas du travail que peuvent continuer à faire des analystes d'un côté dans les agences de renseignement ou des agents du renseignement militaire aussi, puisque c'est l'ensemble du spectre qui est touché. Quand je parle d'une politisation trop grande et finalement de vassaux qui sont à la solde de Trump, et qui touche toutes les agences, la plus grande d'entre elles, on pense tout de suite à la NSC aussi, et à la double casquette qu'a le responsable de la NSC et du cybercommande américain. L'administration Trump 1 avait été assez velléitaire pour soutenir justement le développement, enfin la NSC et le cybercom, en la personne du général Nakazoni, et Si on se rappelle bien, l'idée, c'était de pouvoir débrancher un peu la Russie et éviter aussi qu'il y ait des ingérences russes aux États-Unis. C'était un petit peu la réponse de l'administration Trump 1. Là, on se retrouve avec une administration Trump 2 qui a débarqué début avril Timothy Yu, qui avait été nommé par Biden à la tête de la NSA et du Cybercom. Et aujourd'hui, on a une personnalité, Radcliffe, qui est beaucoup moins gradée, qui a certainement et sans doute de grandes qualités, mais qui n'a pas, pardon de le dire comme ça, l'étoffe d'un chef à ce haut niveau de responsabilité. Et pour les experts, ça peut poser question. Et là, on a bien une érosion, finalement, de la confiance qui peut se poser, parce qu'on comprend bien que ce n'est pas pour ses compétences que cette personne a été nommée à ce poste-là.
Vous êtes d'accord, oui, Philippe Hayet, en tant qu'ancien de la DGSE, c'est le sentiment, la perception que vous avez aussi, c'est une bande d'amateurs qui a été nommée
encore,
à très haut niveau.
Encore, on pourrait citer, au-delà de ce qui vient d'être dit à très juste titre, donc limogeage du patron de la NSA, nomination à la tête de la communauté américaine, le DNI, d'une personne, Mme Gabbard, et à la tête de la CIA, donc M. Radcliffe, de personnalités peu légitimes en interne. Bon, on pourrait ajouter aussi le profil du patron du FBI, puisque le FBI est le grand service domestique de renseignement, Kash Patel, qui est également quelqu'un qui est absolument, qui est un loyal vis-à-vis de Trump,
mais qui n'a aucune légitimité particulière. On pourrait se dire c'est leur problème, quel impact sur les services européens.
Sauf que, comme ça a été dit par Mme Kestar, il y a un mot-clé en matière de coopération renseignement, c'est la confiance. C'est un paradoxe, puisque ce sont des structures de défiance que les services de renseignement, mais c'est la confiance. Si vous n'avez pas la confiance, il y a à la fois la sécurité des opérations, les indiscrétions, l'affaire, le Signal Gate, ça a un effet direct sur tous ceux qui sont amenés à partager des renseignements sensibles avec les Américains, le retrouver dans le Washington Post le lendemain, ou de les divulguer. Et derrière, il y a des...
Ce journaliste, hein, donc, qui pénètre une boucle de très haut niveau et qui glane des informations top secret.
Il a été mis dans la boucle, c'est le journaliste Atlantique qui a été, de The Atlantic, qui a été mis dans la boucle. Par ailleurs, il a rien fait. Enfin, c'est une erreur maladroite. Bon, mais si vous voulez, le trésor des services de renseignement, ça s'appelle la protection des sources et des méthodes. Les sources humaines par exemple, vous mettez des gens en danger, ceux qui acceptent de coopérer avec vous dans des pays que vous pouvez imaginer et que vous avez cité tout à l'heure, risquent leur vie tous les jours. Bon, les méthodes, c'est des méthodes par exemple en matière technique qui mettent des années à être constituées, des investissements très coûteux qu'on peut divulguer. Et donc ça, s'il y a le moindre risque que ces sources et méthodes soient divulguées, on coupe, c'est nous qui arrêterons. C'est nous qui arrêtons, c'est les services qui arrêtent, c'est pas forcément le plus gros d'entre eux. Voilà, donc ça c'est en jeu actuellement très sérieusement.
Serge Chollet, est-ce que le rapprochement entre les États-Unis et les Russes inquiète là aussi la communauté du renseignement, notamment vis-à-vis du partage d'informations?
Bah, je pense, en tout cas je serai encore en activité que j'aurais...
Auriez-vous fait?
Alors, première remarque, un service de renseignement ce n'est pas un média, il n'y a pas de ligne éditoriale. Nous on est là pour... recueillir, aller chercher et recueillir de l'information et la transformer en renseignement suivant un processus très rigoureux. Et on n'est pas là et on essaye d'éviter, même si on n'est jamais à l'abri, d'avoir des biais. Et on peut le traduire de plusieurs manières, il y a plusieurs biais, mais là, de toute évidence, il y a un biais politique. Et on a eu un précédent, hein, c'est de 2003, lorsque les services français pensait que les indices qu'il y avait en Irak n'étaient pas suffisants pour dire qu'il y avait un programme d'armes de destruction massive en Irak, et les Américains qui, à partir de petits indices, disaient c'est largement suffisant parce qu'ils poussaient dans une direction. Donc le premier élément, normalement un service de renseignement n'a pas de ligne éditoriale, n'a pas de ligne politique. Ce n'est plus le cas selon moi. La deuxième chose, et ça a été dit par Philippe, la coopération, vous avez grosso modo trois niveaux de coopération. Vous avez le renseignement, j'allais dire les synthèses, vous partagez entre vous des synthèses, et j'allais dire que vous ayez une grande confiance ou une confiance moyenne, vous pouvez toujours échanger ces synthèses parce que normalement elles déguisent, elles cachent les accès, les méthodes du service. Le deuxième niveau qui exige un plus grand niveau de confiance, c'est celui de l'échange de données brutes. De données brutes, parce que justement, l'autre en face peut savoir quels accès vous avez. Et donc, il peut savoir que ces accès,
il
demain...
Il peut comprendre qui est la source, vous voulez dire?
Alors, ils peuvent aller jusqu'à savoir quelle est la source. Alors, par exemple, on parlait des satellites tout à l'heure, on vous donne une donnée brute, vous allez savoir les performances du satellite. Vous avez demain un échange de renseignements électromagnétiques, vous saurez que tel service peut pénétrer tel réseau qui est censé être... pourtant chiffré et donc protégé. Donc là, vous donnez des idées sur les accès. Donc là, il faut un grand niveau de confiance. Et le troisième niveau, celui qui est le niveau le plus confiant, c'est que vous embarquez avec vous des partenaires. Et donc là, ils savent tout. Ils connaissent vos limites, ils connaissent vos capacités. Et ça, maintenant, lorsque vous n'avez plus confiance à un service, eh bien, ça devient très compliqué.
Mais c'est cela, alors, Serge Chollet, qui inquiète notamment, ou qui pourrait inquiéter la communauté européenne du renseignement dans ce rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Ce sont ces règles bafouées dans ce domaine.
Imaginez que demain, les Américains cherchent à... Alors, il semblerait qu'ils aient une stratégie. Alors, je pense qu'elle est vouée à l'échec. C'est de devoir dissocier la Chine de la Russie. Et pour essayer d'amener la Russie avec eux, eh bien, se disent, maintenant, on entretient des relations de renseignement et pas seulement par l'échange de synthèse. Mais on vous donnera l'accès à des capteurs, etc. J'aurais beaucoup de peine à échanger avec quelqu'un qui est très proche, par exemple, de la Russie.
Un point très important, votre question, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la défiance aussi extrêmement forte entre les services de renseignement américains dans leur ensemble et le président américain lui-même, Donald Trump. Il faut aussi mentionner cet état de tension permanent.
Absolument, et surtout rappeler que Trump est toujours dans la vengeance et qu'il n'a pas beaucoup apprécié ce que les services de renseignement intérieur ont pu faire lors de son premier mandat, même s'il est parti avec une partie des preuves dans sa résidence de Mar-a-Lago, vous vous rappelez, ce qui là aussi quand même est un petit peu hors procédure, si je puis me permettre. Je parle sous contrôle de nos deux autres invités,
Du chef tous les deux.
Absolument. Oui. Donc il y a cette défiance-là et il y a la vengeance de Trump qui veut absolument mettre l'ensemble des agences à sa botte comme le reste. Et dans cette entreprise, il n'est quand même pas forcément conseillé par les plus grands experts, puisque on cherche tous à comprendre un peu qui a l'oreille du président. Eh bien, celle qui a l'oreille du président en ce moment, c'est Laura Loomer, qui est une influenceuse MAGA, dont vous avez certainement entendu parler, et qui a aussi eu son mot à dire dans le débarquement de Waltz, Mike Waltz, qu'on pensait être quand même un adulte dans la pièce.
Qui fait la pluie et le beau temps en matière de nomination de la très haute administration Trump.
Absolument. Donc peut-être que si on interroge cette personne très sensée, on aura finalement le top 3 des remplaçants de Marco Rubio, qui est pour l'instant conseiller à la sécurité nationale par intérim, et donc qui entretient lui aussi, avec sa triple casquette, la défiance entre les agences, pas que de renseignement, le département d'État et l'administration actuelle.
La voix du ministre des Armées, Sébastien Lecornu.
Ça veut dire quoi concrètement pour le front ukrainien?
Le concours des agences américaines sur l'observation satellitaire, sur tout ce qui peut être fait, je ne rentre pas dans les détails, vous comprendrez bien pourquoi, il est suspendu. Je pense que pour nos amis britanniques qui sont quand même dans une communauté du renseignement avec les États-Unis, c'est plus compliqué. Nous, notre renseignement est souverain. Ça a été plus long de remonter en puissance ces dernières années, mais l'avantage, c'est que nous l'avons fait effectivement avec des capacités qui nous sont propres. Donc oui, on a des moyens de renseignement. Nous faisons bénéficier les Ukrainiens.
Notre renseignement est souverain, dit Sébastien Lecornu. Philippe Hayes, comment on construit aujourd'hui, là aussi très très concrètement, une communauté européenne du renseignement? Elle est aujourd'hui quasiment inexistante, voire embryonnaire.
Alors ça, c'est un vaste programme, hein, évidemment.
Vous n'avez pas beaucoup de temps pour en parler.
On vient d'employer le mot souverain. Le renseignement est une affaire de souveraineté en Europe. Les traités de l'Union européenne excluent bien de la coopération intégrée européenne les questions de défense, mais aussi de renseignement. C'est même l'article 4.2 du traité de l'Union européenne pour les amateurs qui font cette réserve. Ça n'interdit pas des coopérations comme le prévoit un traité, mais c'est une affaire d'abord d'État. Bon, donc il n'y a pas la Commission, par exemple, européenne, n'a aucune compétence particulière en matière de renseignement. Alors, pourquoi ? Bon, d'abord parce que c'est une affaire intime que le renseignement. N'oublions jamais que c'est une affaire à la fois extérieure, militaire, etc., mais aussi une affaire domestique. Regardez la polémique actuellement en Allemagne. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, elle est dans la presse de ce week-end. Vous avez ce parti extrémiste qui s'appelle l'AFD en Allemagne. Il se trouve que le service intérieur allemand, le BFV, a qualifié l'AFD de parti extrémiste. C'est une qualification juridique extrêmement précise en Allemagne qui lui permet d'agir en renseignement, d'espionner, en gros, un parti politique. Imaginez en France un parallèle de cette nature. Vous voyez bien que ce sont des affaires très souveraines, très politiques, très internes, et y compris d'ailleurs quand on s'engage sur des théâtres extérieurs comme ceux qui étaient. Vous voyez, nous n'avons pas le même point de vue sur la Chine, la Russie, etc. Bon. Le paysage européen des services de renseignement, on ne se l'imagine pas assez, il est totalement fragmenté. Car dans un pays, on l'a dit pour les États-Unis, mais c'est vrai en Europe, il y a plusieurs services. Il n'y a pas, c'est pas comme la coopération diplomatique entre un ministère des Affaires étrangères et un autre ministère des Affaires étrangères. Donc le dénombrement le plus réaliste en matière de services de renseignement en Europe, c'est on est dans l'ordre de 150 services dans l'Union européenne. Je ne parle même pas des Britanniques ou d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a un multiple de services. En France, on compte, on va jusqu'à compter parfois 15 services. Les Américains ont 18, mais on en a 15.
Mais vous voulez dire que même le partage classique, simple d'informations est extrêmement compliqué ?
Et alors, il est fait point à point, si j'ose dire. C'est du bilatéral. C'est ça aussi le deuxième point important.
C'est du gré à gré en permanence.
C'est du gré à gré, c'est du transactionnel. C'est un concept cher au président Trump, pour le coup. C'est ce qu'on appelle le quid pro quo. Tu me donnes, je te donne. Et on essaie d'avoir des relations équilibrées, de compensation. C'est du troc, en vérité, ni plus ni moins. Bon, cette relation, elle existe. Par exemple, il existe dans un ensemble de services européens des services de renseignement douaniers. Et donc, on peut imaginer que les douaniers parlent aux douaniers. Mais ça ne veut pas dire que ce soit...
Cholet fait nom de la tête. Les douaniers ne parlent pas aux douaniers.
Non, mais le renseignement militaire est peut-être plus intégré que d'autres, puisqu'effectivement, on pourra évoquer ce sujet, il y a quand même l'OTAN. Hein, l'OTAN a aussi une fonction de renseignement. Mais pour ce qui est de l'Europe strictement, il n'y a pas de DNA, il n'y a pas de coordonnateur du renseignement européen. Et les fantasmes habituels de temps, tous les 5 ans, un dirigeant européen, y compris français, peut dire il faut une CIA européenne, il faut un FBI européen, ça ne peut pas marcher. Et il y a quelques réalités sur lesquelles on reviendra, mais qui sont des micro-réalisations.
Serge Chollet, alors par conséquent, est-ce que c'est l'OTAN, justement, pour rebondir sur ce que disait Philippe Hayet, est-ce que c'est l'OTAN qui tient encore tout cela ensemble, et notamment le lien entre les services européens et les services américains ?
Le renseignement de l'OTAN, c'est un renseignement largement américain. Déjà, donc
comme pour la défense.
Comme pour la défense. Ensuite, la souveraineté. La France est effectivement souveraine, mais je n'ai pas connaissance d'une opération, y compris des opérations nationales, qui n'était pas dépendante en partie d'un renseignement extérieur et souvent américain, y compris en bande sahélo-saharienne. Ce que je voudrais sur la partie européenne. Alors c'est vrai, c'est le bilatéral, hein, puisque Philippe disait que c'est une relation intime. Hein, c'est comme l'amour. À deux, c'est bien. À trois, il y a un cocu. Hein, donc souvent, c'est comme ça. Néanmoins, entre le multilatéral, qui est toujours au niveau le plus bas de détail et de précision du renseignement, on a rajouté un intermédiaire au bilatéral qui s'appelle le minilatéral, où vous avez un petit groupe de pays au sein de l'Union européenne qui ont les mêmes enjeux, les mêmes objectifs et qui se partagent davantage. Alors l'Europe, effectivement, et Philippe a entièrement raison, c'est tellement fragmenté qu'il n'y a pas de renseignement européen. Néanmoins, il faut maintenant se référer au rapport Ninisto. Ninisto, c'est celui qui a fait un rapport rendu à la Commission en octobre 2024, qui souhaitait avoir une plus grande intégration, donc c'est surtout le minilatéralisme, qui cherchait plus de réactivité. Alors, quel est l'effet concret de cela ? C'est ils ont créé le SIAC, alors je reprends mes notes parce que c'est quand même assez nouveau, le Single Intelligence Analysis Capacity. C'est en fait la fusion de la partie renseignement civil, qui était l'INSEND, et la partie militaire de l'état-major de l'Union européenne. Et avec ce SIAC, ils ont une ambition certes limitée actuellement, c'était de donner... que ce soit au Conseil, que ce soit à la Commission, que ce soit en fait à tous les dirigeants de l'Union européenne, une synthèse unique, de façon à ce que nos dirigeants, lorsqu'ils se retrouvent à Bruxelles, n'aient pas quelqu'un qui dit A, l'autre qui dit B, etc., et des divergences. Donc actuellement, ils ont fait l'effort pour que l'Union européenne parte sur la même base de connaissances lorsqu'il y a des réunions de niveau décisionnel.
Philippe Hayet, en quelques mots, est-ce que ça veut dire que le sursaut qu'on observe en matière de défense, il est beaucoup, beaucoup plus compliqué, hein, à vous écouter, en matière de renseignement ?
Oui, alors que le renseignement précède souvent la défense, et pas seulement. C'est une méthode des petits pas. Il y a ces partages d'analyses qui ont été évoqués par Serge Chollet. Il y a aussi la formation des analystes. Il y a un collège du renseignement en Europe qui a été porté sur les fonds baptismaux par le président Macron en 2019. Je vous incite à regarder le seul discours sur le renseignement européen, c'est celui de mars 2019, en lançant ce fonds. Mais vous pensez bien, la formation des analystes, ça prendra des années à structurer une communauté.
Merci beaucoup à tous les trois de ces analyses lumineuse, hein, Philippe Hayet, Serge Chollet, Maud Kessar, sur la question du renseignement et d'un difficile renseignement européen. Merci à tous les trois.